Vous écoutez Radio Aramigo.
Restez sur Arengo. Vous allez suivre maintenant la chronique L'Actu Tiède de Luc Van Lerberg.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Arengo dans l'émission L'Actu Tiède avec Luc Van Lerberg. Aujourd'hui exceptionnellement au téléphone parce qu'il ne pouvait pas être avec nous dans nos studios. Donc nous le recevons par téléphone d'où ce son un petit peu décalé. Bonjour Luc.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui le thème...
Bonjour,
oui, le thème de l'émission, Luc, c'est Agnès Buzyn.
Alors, le thème n'est pas Agnès Buzyn, on ne va pas parler de Agnès Buzyn, mais par contre de sa mise en examen auprès de la Cour de justice de la République.
D'accord, parfait. Donc, tu nous expliques ton thème ou je te pose la première question, puisque en rappel pour nos auditeurs, l'idée, Luc, de ton émission, c'est de laisser les auditeurs te poser des questions sur le thème que tu choisis.
Absolument. Et l'idée de cette actu tiède, eh bien, c'est de laisser passer un petit peu de temps entre l'actualité et les questions, de façon à bien avoir le temps aussi d'y réfléchir, de prendre un peu de recul par rapport à ces questions. Donc, on a un recul sur l'actualité, un recul de réflexion, mais pas, on n'est pas non plus dans l'histoire. Voilà.
Parfait. On y va avec la première question ?
Alors, peut-être avant, pourquoi je choisis ce thème ?
Oui, ah bah c'est une bonne idée, vas-y, on t'écoute.
C'est quand même l'une des questions les plus importantes.
Tout à fait.
Alors, pourquoi ce thème ? Parce qu'il est à multiples facettes. Tout d'abord, évidemment, c'est la question de l'actualité, Agnès Buzyn et le Covid-19. Pour rappel, Agnès Buzyn était ministre de la Santé au moment de l'apparition de ce virus, de la Covid, et elle a été, dans les premiers mois, celle qui a géré la crise, ou peut-être qu'elle ne l'a pas gérée, en tout cas, c'est... risque de lui être reproché. Donc ça, c'est, je dirais, l'actualité à laquelle nous sommes tous confrontés, hein, c'est cette fameuse crise, cette pandémie qui a touché l'ensemble du monde. Deuxième élément qui, moi, m'intéresse dans ce sujet, eh bien, c'est l'existence de cette Cour de justice de la République. Parce que derrière cette Cour de justice de la République, il y a la question de la responsabilité de nos dirigeants, il y a la question de la démocratie, de l'équilibre dans notre démocratie. Et donc, faire un petit focus sur ce qu'est cette cour et à quoi elle sert dans notre système me semblait pertinent.
D'accord. Mais alors, c'est quoi la Cour de justice de la République ? Première question.
Eh bien, première question, qu'est-ce que c'est que cette cour ? Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord parler de question fondamentale qui est la responsabilité de nos dirigeants. Lorsque, en un exemple, un policier dysfonctionne et, par exemple, commet une bavure, eh bien, on va pouvoir l'attaquer en justice. S'il y a des victimes, ces victimes vont pouvoir attaquer ce policier en justice. Pourtant, au moment des faits, le policier est en service et représente donc l'État. Il nous représente. Bon.
Mmh.
Eh bien, il est important dans le système de savoir si nos ministres, premiers ministres et secrétaires d'État, éventuellement, peuvent être attaqués en justice à raison de leur action. Alors, pas n'importe quelle action, parce que si un ministre se lève un matin et tue sa femme, eh bien, il répondra, comme n'importe quel citoyen, devant la justice pénale, en l'occurrence, pour le crime qu'il aura commis.
Mmh.
Mais lorsque l'on dirige, on peut éventuellement commettre des fautes qui pourraient être assimilées à des délits ou à des crimes, éventuellement. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on peut attaquer directement un ministre à raison de sa fonction et de ce qu'il réalise dans sa fonction, donc au nom de la France.
Mmh.
Alors, à cette question, eh bien, la réponse est non, dans un premier temps. Pourquoi non ? Eh bien, parce que si on autorise un citoyen à attaquer directement un ministre, eh bien, on a le risque très important d'avoir une politisation de la justice. Autrement dit, à chaque fois qu'une décision d'un ministre ne convient pas à un Français, eh bien, ce ministre pourra potentiellement être attaqué en justice. Alors, vous comprenez que pour que la gouvernance se passe correctement, il est impossible d'autoriser que le citoyen puisse attaquer le ministre à raison de ses décisions. Mais en même temps, il ne serait pas normal dans notre système qu'une personne, même s'il est gouvernant, puisse être rendu irresponsable de ses actes. Et donc, il a fallu trouver un système dans lequel on rend impossible le fait d'attaquer pour des raisons politiques à un dirigeant. Mais en revanche, c'est un système dans lequel l'homme politique, le ministre, pourra être tenu responsable devant les citoyens. Et Comment? Eh bien, grâce à cette Cour de justice de la République, qui est en fait une cour hors norme, on va la classer dans les cours hors norme, c'est une cour politique, qui a pour fonction, eh bien, de regarder si on peut, dans un premier temps, attaquer un ministre pour les actes qu'il commet dans le cadre de sa mission, et ensuite, éventuellement, pourra condamner ce ministre pour ses actes.
Ok, Luc, mais pourquoi cour politique?
Alors, pourquoi une cour politique? Eh bien, parce que vous savez que dans une cour, on trouve des juges. Oui. Dans notre système, les juges sont des professionnels de la justice. Alors, on a quelques exceptions, par exemple, dans les prud'hommes ou au tribunal de commerce, mais globalement, les juges sont des professionnels qui ont fait des études de droit, qui ont fait ensuite l'UNM, École nationale de la magistrature, qui sont devenus juges, puis ils font leur profession de juge. Très bien. Mais ici, dans cette cour de justice de la République, eh bien, cette cour est composée de 15 juges, mais parmi ces 15 juges, on va trouver 6 députés et 6 sénateurs. Autrement dit, on a 12 juges qui sont en réalité issus du corps politique.
D'accord.
Alors, parmi les 15, on aura quand même 3 juges issus de la Cour de cassation. Mmh. Donc, on a quand même une représentation de la justice. Ces juges, d'ailleurs, président les débats. Mais quand même, sur 15 juges, on a une très grande majorité, en fait, d'hommes politiques. Alors, il y a une logique à ça. Cette logique étant que, pour mesurer et pour analyser l'action d'un ministre dans le cadre de son ministère, il faut être du métier d'une certaine manière, donc il faut être un homme politique, connaître les rouages de l'État, connaître les difficultés d'être ministre et de gérer un certain nombre de dossiers en même temps, mmh. et aussi évaluer la portée des décisions de ces ministres.
D'accord.
On n'est pas que dans du droit.
D'accord, ok. Ok. Deuxième question?
Allons-y pour cette deuxième question.
Alors, pourquoi est-elle mise en examen?
Alors, pourquoi elle est mise en examen? Ben, tout simplement, on lui reproche la mise en danger de la vie d'autrui, c'est-à-dire la mise en danger de la vie des Français, parce qu'elle n'a pas, ou elle n'aurait pas, eh bien, géré la crise, ou le démarrage de crise comme il le fallait, c'est-à-dire qu'elle a laissé peut-être courir la situation en sachant qu'il y avait un danger de pandémie. Si elle a été mise en examen, c'est aussi parce qu'elle a déclaré, après avoir quitté son ministère, qu'elle était parfaitement au courant de la situation et de la dangerosité de la situation, qu'elle en aurait alerté le président de la République et le Premier ministre.
Ouais.
Mais cette déclaration est une forme d'aveu que, eh bien, elle connaissait la dangerosité, les conséquences potentielles de la Covid, et pour autant, il n'y a pas eu d'action, en fait, ni préventive, ni d'alerte des citoyens.
Oui, Luc, mais j'ai lu récemment qu'elle pressentait, qu'elle soupçonnait qu'il y avait un problème, mais qu'elle ne le savait pas.
Oui, alors, cette déclaration était en fait une deuxième déclaration qui vient corriger la première et qui peut ressembler à une ligne de défense. Évidemment qu'elle se rend compte que sa première déclaration peut lui être reprochée, et donc elle vient corriger dans la sémantique aussi parce que ça risque d'être sa ligne de défense. Et la ligne de défense
est
vue par ses avocats.
Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr, c'est évident. Oui. Troisième question.
Alors après, attention, elle n'est pas encore jugée, donc la présomption d'innocence existe, elle va se défendre, mais le fait qu'elle soit témoin assistée dans ce procès devant la Cour de justice de la République montre qu'il y a des éléments probants.
D'accord, mais j'en viens justement à la question numéro 3. C'est quoi un témoin assisté?
Ah, très bonne question. Alors, en fait, un témoin assisté, on est entre le témoin et le mis en examen.
D'accord.
Concrètement, l'idée, c'est que un témoin assisté, c'est une façon plus douce de dire mis en examen, avec un aménagement de cette mise en examen. Donc, on n'est pas réellement mis en examen.
Mmh.
Et c'est en fait un petit peu un Canada Dry de la mise en examen. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ressemble à une mise en examen, évidemment. Et dans les faits, ce n'est pas un simple témoin. Si vous voulez, quand vous êtes un témoin, vous êtes le témoin de quelque chose qui vous est extérieur. Là, on lui reproche quelque chose. Mais disons, elle a été ministre. Elle a encore des occupations professionnelles par ailleurs. Et une mise en examen aurait trop de poids en termes d'image pour la population. Donc on a probablement préféré ce schéma de témoin assisté pour rendre les choses peut-être plus souples pour elle.
Mais elle est quand même mise en examen.
Mais elle est tout à fait mise en examen. Mmh. Elle n'est pas mise en examen. Enfin, elle est témoin assisté.
Témoin,
elle est
d'accord.
Témoin assisté. Est en fait une mise en examen quand même.
Ouais, d'accord. Ça adoucit, mais pas vraiment. Un petit peu.
Ça adoucit la terminologie et certaines règles juridiques de contraintes pour la personne qui est mise en examen. Mais témoin assisté, c'est on reproche quand même quelque chose à un témoin assisté.
D'accord. Une dernière question ?
Oui.
Alors, Agnès Buzyn, donc, a été nommée à l'OMS. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Elle a été nommée, elle est mise en examen. Est-ce que ça a une implication ? Un problème ?
Alors, deux choses. D'abord, la nomination d'Agnès Buzyn à l'OMS date de janvier 2021. Donc, ça précède sa mise en examen ou le fait qu'elle soit aujourd'hui sous statut de témoin assisté. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de lien logique, je dirais. Elle a d'abord été nommée à l'OMS et puis ensuite, elle a été mise en examen devant la Cour de justice de la République où elle a été mise sous le statut de témoin assisté. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct entre cette nomination et le fait d'être en témoin assisté ? La réponse est non. C'est deux événements qui sont séparés dans le temps et donc qui n'ont pas de lien direct entre eux. Est-ce qu'il y a une conséquence pour son rôle au sein de l'OMS ? Il pourrait y en avoir, mais en tout cas, il n'y a pas de conséquences directes et juridiques. C'est-à-dire qu'une mise en examen n'implique pas une démission automatique ou le retrait d'un mandat qu'elle aurait à l'OMS. Elle est nommée à l'OMS par le gouvernement, par le président de la République. Mmh. Elle représente la France à l'OMS. J'imagine que si elle passe du statut, simple statut de témoin assisté à réellement... en examen et peut-être même condamné. Alors oui, peut-être en termes d'image, il sera problématique pour la France d'avoir un représentant à l'OMS qui est mis en examen ou qui est condamné, et donc on lui retirera peut-être son mandat.
D'accord. Bon, je crois que les éclairages ont été faits sur ce point précis de la mise en examen d'Agnès Buzyn. Et pour clore ce sujet, tu as indiqué tout à l'heure que la Cour de justice de la République était importante pour notre...
démocratie.
Pour notre démocratie, merci, je cherchais le mot. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?
Oui, bah parce que cette Cour de justice de la République, elle vient dans le système d'équilibre en fait, des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ici sur le pouvoir exécutif, c'est-à-dire c'est un contrôle du pouvoir judiciaire sur le pouvoir politique.
Okay.
C'est aussi important parce que c'est la possibilité pour un citoyen qui subit un dommage, eh bien, de pouvoir attaquer directement les personnes les plus hautes au sommet de l'État. Il n'y a qu'une personne qu'on ne peut pas attaquer par la Cour de justice de la République, c'est le président de la République. Mais il y a une explication très simple à cela. Eh bien, c'est la légitimité de chacun dans son poste. C'est-à-dire que le président de la République est élu directement par le peuple. Et donc, seule la sanction du vote peut le sanctionner. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a une immunité. En revanche, les ministres sont, eux, nommés. Et donc, il est normal dans une démocratie que le citoyen puisse demander des comptes, eh bien, à ses dirigeants. C'est le cas avec cette Cour de justice de la République. Attention, parce qu'elle pourrait disparaître. C'est en tout cas une proposition qui a été faite de longue date. La disparition de la Cour de justice de la République était prévue lors de la présidence de François Hollande. Mmh. Elle a été réitérée dans un rapport de 2019 et de nouveau proposée. Donc c'est un élément qu'il faudra surveiller à l'avenir parce que si elle est purement et simplement supprimée, eh bien la question sera de savoir comment eh bien, nous pouvons demander réparation et demander des comptes en raison de la responsabilité de nos dirigeants. Donc c'est une question fondamentale de notre démocratie.
Alors ce sera le mot de la fin. Luc, je te remercie de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle à nos auditeurs qu'on te retrouve tous les 15 jours. Nous allons annoncer le prochain sujet la semaine prochaine. Chers auditeurs, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur Radio Arengo sur le site internet arengo.com, arts-and-go.com. Vous pouvez aussi, Luc, poser toutes les problématiques que vous voulez. Vous pouvez suggérer des sujets.
Absolument. Si un sujet d'actualité vous interroge, vous semble important et pertinent, eh bien vous pouvez nous le soumettre et nous l'aborderons peut-être.
Ok Luc, bah, écoute, je te remercie. Donc à dans 15 jours avec un nouveau sujet.
À dans 15 jours.
Parfait. Merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane.
cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Out of town. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed.
tried. The crime was murder once. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of